C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Ce matin, je suis avec Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, quel plaisir de revenir au micro. Hein. Moi, ça fait un petit moment là que j'avais pas été dans le Super Daily, Je suis tout excité comme un gamin quoi, à l'idée de reparler dans nos micros et d'être dans le Super Daily de la rentrée.
Est-ce que tu t'es levé ce matin avec une petite excitation
Je me suis levé avec une petite excitation et un petit rhume. Mais ça, il faut que je bosse dessus. Je dois avoir les anticorps d'un enfant de 4 ans. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que je refasse un peu de sport. Il faut que je me bouge.
Granion de cuivre, mon grand. Retrouve tes recettes de grand-mère.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on a de beau ce matin dans ta veille social media? Avec quoi tu commences?
Et ben moi, je commence avec le feuilleton de l'été, j'ai envie de te dire. Hein, le truc dont on a entendu parler tout l'été, nous voilà à la rentrée. Cet énorme dossier qui agite la sphère social media n'est pas vraiment réglé, Thibaut. C'est le rachat de TikTok. On en parle encore, c'est pas fini. Dans la guerre économique qui oppose les États-Unis et la Chine, TikTok est devenu un gros enjeu et l'application appartient à ByteDance, hein, je le rappelle, le géant chinois. Ce qui fait peur un peu à Donald Trump et à l'administration américaine. En effet, beaucoup d'entreprises chinoises qui opèrent aux États-Unis ces dernières années ont été rachetées par des entreprises américaines. Il y a une vraie politique, hein, c'est le fruit d'une vraie politique du gouvernement américain. Et c'est maintenant au tour de TikTok d'être la cible de cette politique. Donald Trump a même menacé de faire interdire TikTok si la société ne repassait pas sous drapeau américain. Ça fait plusieurs semaines que Microsoft, tu as dû en entendre parler, s'est lancé dans les négociations de rachat de TikTok. Et jeudi dernier, le 27 août, eh bien, il y a eu un nouvel acteur qui est venu s'allier à Microsoft pour donner encore plus de poids à sa candidature. C'est Walmart qui a annoncé donc s'allier à Microsoft dans les négociations. Donc du côté de Walmart, on déclare qu'on est intéressé par les capacités de TikTok à intégrer le commerce en ligne et la publicité d'une façon bénéfique aux créateurs et aux utilisateurs sur d'autres marchés. Donc on voit bien que là, il y a un intérêt très propre et de e-commerce pour Walmart sur la plateforme TikTok. ByteDance, qui au début voulait pas du tout vendre TikTok hein, et ne va pas vendre de toute façon la globalité de TikTok, mais seulement les opérations de TikTok aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, il y a un petit pack comme ça pour ces quatre pays qui se négocieraient. Je ne sais pas si tu as les sous, Thibaut, si tu as les fonds, si tu veux rentrer dans la
danse. Dis toujours, je ne sais pas.
Ça se négocierait entre 20 et 30 milliards de dollars hein, quand même. Ouais. Donc bon, là, faut...
Je passe mon tour pour cette fois-ci.
Moi, je vais y aller, je pense, alors, parce qu'il voilà, y a moyen de faire quelque chose de cool. On sait qu'il y a aussi Twitter et la société Oracle qui sont intéressés par le rachat. Donc c'est encore serré. Du côté de TikTok, y a eu quand même la démission du PDG, hein, qui a eu lieu là, donc on va en reparler. Et y a aussi une plainte qui a été posée par TikTok contre Donald Trump et le gouvernement américain pour justement faire annuler le décret qui empêche TikTok de faire du business aux États-Unis. Ouais, à ce moment.
Quelle saga!
C'est fou.
Incroyable, incroyable cette histoire. Je trouve d'ailleurs hallucinant hein, qu'au pays du capitalisme fou, finalement, il y a une renationalisation. Alors, un peu. Quoi,
on nationalise à travers des entreprises américaines, mais on nationalise quand même.
C'est assez fou. Et alors, le rachat de TikTok, si d'aventure, ça devait être Walmart qui l'emportait, pour un certain nombre d'influenceurs TikTok, c'est quand même un peu surprenant en termes de positionnement. C'est un peu comme si Aldi rachetait TikTok, tu vois. C'est un peu étonnant. Oui, puisque tu parlais du patron de TikTok, hein, effectivement, après 6 mois à la tête de TikTok, eh bien, Kevin Mayer démissionne. Kevin Mayer, c'est l'un des protagonistes... l'un des protagonistes, pardon,
c'est la rentrée,
rappelons-le.
C'est normal, il faut s'échauffer.
Du lancement de Disney+. Ouais, c'est quand même pas n'importe qui, ce Kevin Mayer. Hein, il avait quitté son poste de responsable du contenu chez Disney pour rejoindre TikTok dans ce qui s'annonçait comme un énorme challenge passionnant, une sorte de voie royale. Sauf que bof, en fait. Hein. Faut dire qu'en 6 mois, il s'est passé effectivement un paquet de trucs chez TikTok, la fameuse saga dont on vient de parler, et que le poste en or s'est révélé en fait un peu claqué au sol au cours des dernières semaines. Alors TikTok, t'as déjà un peu parlé de tout ça. Hein. Le rachat, Trump, la pression, etc. L'interdiction en Inde aussi, hein, rappelons-le, hein, 30%, 30% de l'audience de TikTok privée du jour au lendemain, puisque TikTok est toujours interdit en Inde. Du coup, Kevin Mayer a démissionné. Alors pourtant, Kevin Mayer, il faut se dire que ByteDance l'avait nommé, cet Américain Kevin Mayer, en mai, pour essayer d'harmoniser les relations avec Washington. Hein, ils avaient déjà anticipé que ça allait être chaud cet été. Ouais. Et là... TikTok essayait de bien montrer que TikTok aux États-Unis, eh bien, c'est une entité distincte de sa maison mère à Pékin. C'était aussi une manière d'apaiser les préoccupations concernant la sécurité nationale. Alors, ça n'a pas vraiment marché. Hein. Trump est toujours furibond sur TikTok et Kevin Mayer n'a pas tenu la pression. Alors, dans un communiqué, TikTok explique comprendre la décision et reconnaît que la dynamique politique des derniers mois, elle a considérablement changé le rôle de Kevin Mayer en tant que président. Voilà, donc je pense qu'il s'est dit, ça m'a saoulé cette affaire.
Bah oui, le gars n'est pas venu négocier une vente à la base, hein. Il est venu diriger un gros groupe en développement et là, ça a changé quand même beaucoup de missions.
Mais ça ajoute quand même à la tourmente et ça donne quand même du grain à moudre quant à la revente. Elle sent comme ça commence à vraiment se sentir cette revente.
Tu paries sur qui du coup, toi? Sur moi, sur Microsoft et Walmart, sur Twitter, Oracle qui
Jean-Michel Aulas, je pense que Jean-Michel Aulas.
C'est vrai qu'on n'a pas encore entendu Aulas parler. Attention aux prochaines déclarations. À moi, j'y vais. Moi, j'ai une deuxième petite news avec iOS 14 et la dernière mise à jour d'Apple qui est en train de faire grincer des dents du côté de Facebook. Hein, Facebook n'est pas content. La prochaine mise à jour iOS va pénaliser les annonceurs qui souhaitent cibler les utilisateurs d'iPhone. En gros, sur l'iOS 14 qui arrive le mois prochain, Apple a prévu un gros changement dans ses paramètres de confidentialité et les annonceurs devront désormais demander l'autorisation à l'utilisateur qui utilisera cet iOS pour récolter et utiliser des données sur lui. En fait, beaucoup d'annonceurs utilisent ce qu'on appelle l'identifiant publicitaire unique qui est présent sur chaque appareil iOS. Et maintenant, pour utiliser cet identifiant, eh ben, il faudra demander l'accord à l'utilisateur lui-même. Donc, ça change énormément de choses. Et
il y a des chances qu'ils disent non.
Voilà. Facebook se dit, bah, il y a peut-être beaucoup d'utilisateurs qui vont nous dire non, on veut pas que vous utilisiez notre identifiant publicitaire unique. En gros, avec cette demande d'autorisation, bah, ça va être plus compliqué pour Facebook et d'autres développeurs d'applications de cibler des utilisateurs iOS en publicitaire. In fine, ça va surtout aussi coûter plus cher aux annonceurs pour cibler ces personnes-là. Facebook met même un petit coup de pression et annonce que les annonceurs devront créer un nouveau compte publicitaire dédié aux utilisateurs d'iOS 14 s'ils souhaitent les cibler parce que le compte publicitaire qu'on utilise tous aujourd'hui sur Facebook ne sera pas valable pour ces iOS 14. Et en plus, Facebook annonce qu'il ne collectera carrément plus de données via cet identifiant publicitaire unique. Donc, c'est une position qui pourrait peut-être obliger Apple à revoir un peu ce qu'il veut faire avec ses nouvelles mises à jour. Oui. C'est un peu la guerre des nerfs entre les deux géants, là.
Ouais, c'est la guerre des nerfs. Et puis, il y a du lobbying. On voit bien que Facebook utilise ses audiences, sa force d'audience, ses annonceurs, les marques et puis aussi les sites d'actu pour faire pression sur Google. Facebook, de son côté, lui, il table sur une perte de 50% des revenus sur Audience Network. Tu sais, Audience Network, c'est ce réseau publicitaire proposé par Facebook qui vient se pluguer dans les applications mobiles et aussi dans les sites mobiles et cette Audience Network, c'est ce qui est bloqué du coup par cette nouvelle fonction opt-in Apple. 50% de perte et ils communiquent fortement Facebook auprès de ses clients, donc les marques et les annonceurs et les développeurs d'applications en disant le méchant, c'est Apple, c'est pas nous. Vous allez perdre des revenus, faites pression avec nous. Voilà,
On va voir si Apple tient le coup sur sa décision ou s'ils reviennent peut-être en arrière.
Voilà, c'est l'octogone des géants de la tech en ce moment.
À San Francisco.
Je vais basculer sur Instagram cette fois-ci avec les guides Instagram. Est-ce que tu te souviens qu'on avait parlé de ça cet été?
Oui, je me rappelle. Voilà, oui.
Instagram qui travaille sur un nouveau format de contenu, les guides. Ils ont été lancés en mai, alors avec une connotation guide de bien-être. Hein. L'objectif, c'était de permettre à certaines organisations et aussi des experts de partager des ressources liées à la gestion de votre santé mentale, y compris dans des choses comme la gestion de l'anxiété au cœur de la pandémie Covid-19. Forcément, on était au cœur du confinement et du lockdown. De ce qu'on a pu en apercevoir de ces guides, ça prend la forme d'un onglet additionnel dans ton profil Instagram et dans lequel tu as une série de contenus ressemblant à des micro-articles. Donc, ça mêle texte et images. C'est un format vraiment inédit qu'on n'a jamais vu sur Instagram.
Ouais,
des micro-articles dans la plateforme.
Presque du blogging.
Quasiment du micro-blogging. Du blogging, non, plus que du micro-blogging, quasiment du blogging. Alors, l'objectif de ces guides, c'est de donner aux utilisateurs d'Instagram un moyen de publier un contenu de forme plus longue, ça on l'aura compris, qui n'est pas seulement une photo ou une vidéo. Alors, on peut inclure des photos, des galeries, des vidéos provenant soit du créateur, soit d'autres créateurs, et puis aussi du texte. Initialement, tout ça était réservé à un nombre de créateurs utilisateurs restreints, il se pourrait bien que la fonctionnalité s'étende à d'autres sujets que la santé et le bien-être. Une série de screenshots qui a fuité montre même plusieurs possibilités et des thématiques différentes. Alors, on parle de guides pour mettre en avant des lieux, donc là, on est plus touristique, des guides d'achat hein, pour des produits, où là, on va pouvoir imaginer peut-être avoir des démos de produits, hein, et puis des guides façon article de blog. Ah, c'est dingue d'imaginer ça dans Instagram. Je vous mets un lien direct vers ces screenshots pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Et initialement, d'ailleurs, hein, le patron d'Instagram a expliqué récemment qu'initialement, ces fonctions de guide, elles avaient été inventées pour les voyages, pour l'industrie du travel. Hein. C'était ça qu'ils avaient en tête quand ils avaient bossé sur guide. Et puis, la pandémie a accéléré le côté santé et bien-être et ils les ont sortis pour ça. Du coup, Instagram a confirmé hein, que les nouvelles fonctionnalités elles faisaient partie d'une série d'améliorations sur lesquelles ils travaillaient. Ils n'ont pas précisé exactement pour quand ça allait sortir tout ça. Mais vraisemblablement, il faut s'attendre à ce que Instagram, de plus en plus, bascule vers une plateforme de contenu, une plateforme informative et pas exclusivement une plateforme de jolies images et de jolies vidéos.
Ouais, et puis moi j'ai l'impression aussi que ça va venir nourrir un peu toute la partie desktop d'Instagram qui pour le moment est pas fofolle. Et là, je pense qu'avec ce type d'article de blog, justement, bah, on va pouvoir y accéder, bien sûr, sur mobile, comme à la base avec Instagram. Mais je pense que ça va venir nourrir, effectivement, le site en desktop.
Très juste. On a hâte de voir ça.
Moi, je vais vous parler de... C'est la rentrée. Donc, je voulais vous parler du retour de Koh-Lanta. Je ne sais pas si tu regardes Koh-Lanta, Thibaut.
Pas du tout. Je sens qu'il y a un vrai engouement autour de ça, mais non, je ne suis pas.
C'est assez fou. Ouais. En tout cas, il y a une communauté sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, qui attendait que la nouvelle saison reprennent. Et ce vendredi soir, c'était le retour de cette émission qui fait un carton. On découvrait les nouveaux candidats, les nouvelles équipes. Première grosse surprise, il y en a 4, je crois, cette année. Donc, pour 4 fois plus de plaisir. Et vous vous dites, mais Adjane, pourquoi tu nous parles d'une émission de télé dans le Super Daily? C'est un petit peu chelou parce qu'en fait, j'ai l'impression que Koh-Lanta, tu peux autant le suivre sur Twitter qu'à la télé. J'ai pas regardé une émission de Koh-Lanta en 2 ans et pourtant, je sais que Twitter était complètement fan de Claude l'année dernière et il y avait le FC Twitter, comme on l'appelle, qui était derrière Claude à fond. Donc, tous les vendredis soirs, ma timeline Twitter, elle est complètement envahie par les fans ou même des fois pas forcément des fans hein, parce qu'on retrouve des tweets qui sont là pour soit gentiment se moquer des candidats, soit pour suivre à fond l'émission. Je vous mets d'ailleurs un petit lien là d'un article de Combini Sport qui a répertorié tous les meilleurs tweets de la première émission de cette saison. Sur ce que je trouve intéressant, en tout cas, quand je parle de Koh-Lanta sur Twitter, c'est que je trouve qu'il y a une vraie culture Twitter, ça on le sait, avec des références qui sont singulières à Twitter. Et il y a aussi, je trouve, une vraie culture Koh-Lanta avec des anecdotes, des références qui sont issues de Koh-Lanta et qu'on ne peut pas comprendre si on ne suit pas soit Twitter, soit Koh-Lanta. Les deux s'entremêlent justement sur Twitter, c'est assez fou. Et je trouve qu'on retrouve pas mal de comptes, même qui commentent du sport d'habitude, avec humour, qui là se mettent à commenter Koh-Lanta comme si c'était un événement sportif comme un autre. On retrouve par exemple la Fédération de la Loose qui commande tous les vendredis soirs Koh-Lanta en se foutant de la gueule des mecs qui sont en train de perdre. Et bien sûr, Koh-Lanta, c'est une machine à mème et à gif. On en retrouve plein internet après parce que ça crée plein d'images de gars qu'on peut plus, qui est dégoûté, qui a la tête dans la boue ou de mecs qui est en train de gagner. Enfin voilà, ça décuple un peu les émotions des candidats. Donc ça se transforme en machine à mème et à gif. Je trouve que il y a vraiment un mouvement et je vous invite d'ailleurs, même si vous aimez pas trop, même si vous, comme moi, vous suivez pas spécialement Koh-Lanta, connectez-vous sur Twitter le vendredi soir et vous devrez rire un bon coup, je pense.
peut-être je vais faire ça. Moi, je ne suis pas du tout Koh-Lanta, voilà. J'ai jamais tellement accroché.
Je t'avoue que pareil, et puis j'ai vu ça monter petit à petit. Je suis assez.
Alors après,
Twitter,
j'ai pas de télé, ce qui explique peut-être pourquoi.
Ça peut voilà. Expliquer. T'avais une dernière news, Thibaut ?
Ouais, on va revenir chez Facebook. Hein. Facebook qui, alors là, attention, hein, c'est quasiment, c'est hallucinant ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Hein. Vous suivez tous ça comme nous. Et donc, Facebook se prépare à ce que Trump ne reconnaisse pas les résultats des élections américaines.
Wow.
C'est hallucinant. Je suis tombé sur cette longue étude, hein, ce long article du New York Times qui nous explique on le sait, hein, initialement, après des années de bataille sur le terrain des fake news, maintenant, les plateformes plateformes sociales anticipent une bataille encore plus critique. Rappelons-le, hein, les plateformes social media, YouTube, Facebook, Twitter, etc., elles ont passé ces dernières années à travailler pour éviter une répétition des élections de 2016. Vraiment, elles ont mis une énergie considérable depuis maintenant 4 ans là-dessus. Rappelons-le, 2016, des agents russes qui ont enflammé l'électorat américain avec des messages clivants pour diviser l'électorat.
Des comptes privés aussi.
Exactement. La fameuse affaire des fake news. Eh bien, maintenant, il y a une bataille encore plus critique qui est à anticiper. Hein. Selon des fuites internes, eh bien, les employés de Facebook élaborent en ce moment même des plans d'urgence et parcourent des scénarios post-électoraux qui incluent notamment des tentatives de Donald Trump d'utiliser la plateforme pour délégitimiser les résultats. C'est fou, ça fait froid dans le dos, je trouve. Facebook se prépare à prendre des mesures si Trump affirmait à tort sur le site qu'il avait remporté un autre mandat de 4 ans. Donc, ils anticipent ça vraiment assez sérieusement. Facebook travaille d'ailleurs sur la manière dont il pourrait agir si Trump tentait d'invalider les résultats, par exemple en déclarant que le service postal a perdu des bulletins de vote par la poste, hein, notamment puisque c'est un des gros sujets du moment. Alors, dans cet article du New York Times, on apprend aussi que Zuckerberg et un certain nombre de ses lieutenants proches ont commencé à tenir des réunions quotidienne pour minimiser la manière dont la plateforme pouvait être utilisée pour contester les élections. C'est quand même assez fou, hein. Ils ont évidemment sont penchés sur la question des publicités politiques et ils ont même discuté d'un kill switch, c'est-à-dire la possibilité d'arrêter du jour au lendemain après les élections, l'annonce officielle des élections, les publicités politiques pour maîtriser ce qui allait se dire et qu'il n'y ait pas de l'achat publicitaire délégitimant les résultats du scrutin. Il faut dire qu'ils ont quand même des raisons d'être inquiets du côté de chez Zuckerberg. Au cours des dernières semaines, Trump, il a mis en doute la légitimité du vote par correspondance. Hein. Il a suggéré que les bulletins de vote par correspondance des gens pourraient ne pas être comptés ou pourraient se perdre en route. Et puis, il a carrément évité de répondre à la question de s'il perdait, est-ce qu'il allait se retirer facilement du trône de fer. Voilà, histoire dingue qui se passe aux États-Unis, affaire à suivre et beaucoup de fébrilité actuellement chez les acteurs et les plateformes social media sur comment gérer le post-élection.
Ouais, on a un automne américain qui va être chaud bouillant, je pense, sur les réseaux sociaux.
On sera amené à en reparler, me semble.
Ah, c'est sûr. Bon, on espère en tout cas qu'on vous accompagne dans votre rentrée et que vous passez un bon moment avec
très
vous.
Bonne rentrée à vous tous. Ouais, hein. Nous, on est déjà au retour depuis un petit moment, mais pour ceux qui reprennent aujourd'hui...
Et pour ceux qui partent en vacances en septembre, on pense aussi à vous, bande de petits vénards. Vous avez souffert tout l'été, ça y est, maintenant, c'est à votre tour d'en profiter. Bon, en tout cas, vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver déjà sur tous les réseaux sociaux pour en parler avec nous. Si jamais on avait oublié des news importantes pour cette rentrée, bah, venez en parler avec nous sur nos réseaux, @supernative, sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok ou même Pinterest. Et puis,
Vous aimez le Super Daily, voilà. Partagez-le à un pote, une pote. C'est le meilleur moyen de nous donner un coup de pouce. Donc, on est preneurs.
On vous retrouve dès demain matin, tout simplement.
Oui. Salut.
Allez,
à tous.
Ciao.
Salut.